Bien. Donc merci à tous d'être si nombreux ce soir pour converser un peu avec Vincent de cette pièce qui a, je crois, laissé beaucoup de monde frappé, pour le moins. Peut-être je vais commencer. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole pour interroger Vincent ou une question, une remarque à faire? Tu veux, William? Bon, William qui a accepté d'endosser le rôle de premier témoin ce soir et qui va nous faire part de sa réflexion. Tiens, je te passe le micro.
Merci. Bonjour Vincent. Quand ces salopards m'ont demandé de venir commenter, j'ai dit oui. Je vais le faire. Je ne savais rien de vous, je ne savais rien de votre travail, j'avais donc deux choix. Soit me documenter, tout savoir sur l'homme et puis dire des conneries en direct. Soit ne pas me documenter puis prendre le travail pour ce qu'il est, sans a priori et sans défense, et dire peut-être aussi des conneries en direct. Alors, la couleur étant donnée, je vais aller directement sur ma réception, très, très sensible je pense, de ce que j'ai vu il y a quelques instants. L'année dernière, les mêmes m'avaient demandé, avec la même délicatesse, de commenter le travail de Steven Cohen, qui, comme son nom l'indique, est juif, et qui nous avait présenté un travail, Chandelier en l'occurrence, où on le voyait dans une forme de figuration du sauveur qui intervenait sur un enfer terrestre. Votre boulot me semble plutôt ressortir du registre chrétien. Vous êtes de souche et de culture chrétienne ou pas? Je ne fais pas de conneries là?
Oui, ne vous trompez pas.
Non, d'accord. Merci, sinon c'était mal barré. Et donc, vous apparaissez, en tout cas, moi je suis sensible à des manifestations de cette nature, comme à la différence du juif qui attend encore son Messie, qui n'est pas arrivé, comme le chrétien qui, après le passage du Sauveur, est bien emmerdé parce qu'il est seul face à la destinée. Donc, votre configuration de scène, votre configuration de propos, m'a rappelé non seulement des sentiments intimes que j'ai pu éprouver, moi-même de souche chrétienne, dans le spectacle du monde, et de surcroît mise en scène avec un propos extrêmement pessimiste. Alors je crois que le propos est d'actualité, parce qu'effectivement vous n'êtes pas le seul à chercher une formule qui fasse l'expression de cette difficulté d'être en quelque sorte seul face à la destinée. Ça vous donne, et c'est une forme d'hommage, le talent de nous rendre quelque chose d'à la fois beau et tragique. La poésie 19e joue beaucoup sur cette configuration, mais de façon simple. La beauté crépusculaire de votre scène initiale qui nous emmène, par exemple, chez Edward Hopper, nous met immédiatement dans le motif. La poursuite de votre propos est finalement la destruction de l'ensemble de l'environnement qui est le vôtre, c'est-à-dire du monde dans lequel vous êtes enfermé. On renvoie plutôt vers la fin de l'espoir tel qu'on le trouve chez Elfriede Jelinek. Ce sont des exemples, on pourrait en prendre évidemment bien d'autres. Mais je prends Jelinek à dessein, puisqu'elle est autrichienne, hein, pas allemande, mais il y a un truc qui m'emmerdait dans votre spectacle, parce que je n'avais pas d'interprétation immédiate, et ce ne sera pas la première question. Votre survêtement porte une bande tricolore, hein, qui est celle du drapeau allemand. Est-ce délibéré ou est-ce hasardeux?
Vous allez être très déçus. C'est le hasard.
C'est le hasard. Je pense que le hasard résulte soit du conscient, soit de l'inconscient. Donc je ne serai pas quand même complètement démuni pour poursuivre. Mais je préfère que ce soit le hasard à tout prendre. Donc, premier aspect, je vous disais que votre boulot m'avait aussi amené vers d'autres travaux. Il y en a un que vous ne connaissez sans doute pas parce qu'il est, de faible diffusion. C'est néanmoins un grand boulot. Alors pour que vous le connaissiez, je me débrouillerai pour que vous receviez une image. C'est le boulot d'un peintre qui est un familier de moi-même et d'un certain nombre ici, qui s'appelle Francis Baudelot, et qui a peint un Christ qui quitte sa croix. Je vais en faire une question. Je vous enverrai la photo de ce joli boulot. Est-ce que l'image du Christ qui quitte sa croix vous semble résonner avec le travail qui est le vôtre?
Je crois pas. On honnêtement.
Bon, sous-entendu, le Christ quitte sa croix, les hommes l'ont déçu, en quelque sorte, il ne peut plus rien faire pour eux. C'était là-dessus que je voulais vous amener. Est-ce que vous partagez ce sentiment, sinon de l'indélicatesse des hommes vis-à-vis du Christ, à tout le moins de la difficulté de construire l'espoir?
Je pense que si on devait chercher des correspondances ou des connexions avec quelque chose qui pourrait être lié à quelque chose de religieux ou mystique ou voilà, c'est pas la bonne voie de départ en fait pour mon travail. Même si je suis constitué effectivement par mon éducation, d'une éducation chrétienne. Que obligatoirement elle influe sûrement sur mon travail de façon indirecte. Là, plus le. Alors, je sais pas, pour parler un petit peu de ce spectacle, plus simplement, en fait, j'ai eu envie d'essayer de construire un parcours pour essayer de retrouver une sorte de cri comme ça, qui pourrait être un cri un peu oublié, un peu perdu, et qui, je pense, est un cri qui, quelque part, doit aider à vivre, doit nourrir quelque part. J'ai cette intuition-là, peut-être que je me trompe. Et donc, ce projet, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire essayer de retrouver ce moment où, en fait, quand on dit pousser les hauts cris ou crier, le besoin de crier, c'est une sorte de moment où le son, la respiration et le corps sont dans une connexion parfaite. Et voilà, j'ai essayé de développer ça pour aller jusqu'à un endroit où je cherche.
D'accord. Donc j'étais dans l'exercice détestablement intello de donner des mots sur des formes qui ne s'y prêtent pas forcément. Je suis le premier à le reconnaître. Le jeu de l'interprétation est toujours sous-tendu par ce type de risque. La construction de votre forme est donc très intuitive. On n'est pas sur un calcul comme j'essayais de vous le faire dire et essayer de vous le faire restituer, mais sur le développement progressif suivant une technique qui est celle d'un art chorégraphique, ou s'agit-il de chorégraphie, d'un art en tout cas qui mène à l'expression et qui s'assemble assez spontanément. Et alors, on se contente d'acquiescer sur cette idée, votre recours au texte 16e siècle, je pense, vient en figure de synthèse sur votre mouvement spontané, sur votre construction spontanée.
Oui, c'est un petit peu cette langue, une langue un peu oubliée, qu'on comprend quand même, malgré tout, et qui est là, en l'occurrence... chargé un peu d'horreur, dans le sens où cet homme avec les pas de minier parcourait un peu les champs de bataille et a commencé à relater ce qu'il voyait d'une façon assez originale, on pourrait dire, pour l'époque. C'est que d'abord dans les tragiques, donc c'est ce livre duquel j'ai extrait ces 24 alexandrins, Agrippa d'Aubigné dans les tragiques ne prend pas de héros, il n'y a pas de héros, c'est-à-dire qu'il parle à la fois des princes, des paysans, des soldats, des femmes, des enfants, sur d'une façon complètement tout ça c'est la même chose, c'est le même, il observe, c'est une sorte, pour moi c'est un peu, il y a quelque chose d'un peu journalistique dedans, même si c'est habité par quelque chose de religieux, parce que lui il avait des origines protestantes, il a été un petit peu catholique à certains moments aussi, puis il est redevenu protestant, mais c'est une vision comme ça d'un champ de bataille avec cet homme qui décide de relater ça en alexandrin. Voilà.
Ouais, ce qui me frappe, c'est que effectivement votre création et sa génération, enfin sa construction, peut-être intuitive, vous corrigez si je dis faux, embrasse avec facilité la présentation que fait d'un objet non désigné Agrippa d'Aubigné dans son texte, et vous met sur la phrase finale en phase formel avec sa déclaration « La beauté paraît terrible parmi les eaux ». C'est ça.
« Ma beauté paraît horrible entre les eaux ».
Oui, ouais, c'est ça.
Ouais. C'est, en plus, j'aimais bien... Alors, le texte... C'est un rapport au texte un petit peu particulier. J'ai une formation de comédien. J'ai commencé comme comédien. Et puis, j'ai rencontré la danse un peu tard. J'avais 27-28 ans. Et ça a complètement changé ma vie, on pourrait dire. J'ai commencé à travailler en tant que comédien-danseur, et puis après en tant que danseur. Et du coup, ça a un peu déplacé ma façon de concevoir le texte sur un plateau. Et dans mes spectacles, je ne cherche pas du tout à mettre du texte. Il y a un moment, ça vient ou ça vient pas. Ça dépend de si c'est nécessaire, si vraiment c'est important. Mais en tout cas, je veux pas qu'il prenne la place principale du tout. Et là, je me disais, voir ce texte projeté, voir ces mots en vieux français et tout ça, il y avait quelque chose par rapport à cette histoire de cri dont j'ai parlé, essayer de retrouver ce cri, essayer de retrouver ça, qui pouvait faire une correspondance, j'avais l'impression, et peut-être ouvrir un peu ailleurs, sur d'autres espaces.
Oui, ce qui me rassure quant à la façon dont j'ai abordé le dialogue avec vous, le 16e, je caricature bien évidemment, mais celui d'Agrippa d'Aubigné, comme celui des autres auteurs dont on se souvient pour la période, et celui des guerres de religion. Et par conséquent, les propos que vous avez extraits des tragiques, comme ceux qu'on trouve bien souvent à la période, sont des résonances immédiates. Je ne veux pas plus que ça vous livrer mes éléments. Je crois que d'autres personnes ont sans doute des choses à vous demander. Je vais simplement finir sur... l'émotion vive que j'ai eue à suivre votre spectacle, dont j'ignorais tout il y a une heure. Merci.
Merci.
Merci Vincent, merci William d'être allé au feu. Je crois que quelqu'un va me poser.
Bonsoir. Donc, moi j'étais touchée par le cri que vous avez poussé ce soir, et aussi par... je l'ai vécu comme la recherche d'une issue, enfin, physiquement, à travers le pays... le paysage, et aussi à un moment donné une sorte de parole à travers, comme un confessionnal, moi je l'ai vu comme ça, et puis après le découpage du décor, et il y a quelque chose qui m'a touchée, et j'avais une question justement par rapport à ça. D'abord, c'est l'échelle du corps, de votre corps quand il se déplie, que j'ai trouvé troublante en fait, comme une adaptation du décor à votre échelle propre, quoi. Et puis aussi du mobilier, parce que je trouvais que le mobilier avait, au début je me suis dit tiens, on dirait un mobilier trouvé, comme fabriqué en réduction. Et puis là, je me suis rendu compte que c'était des chaises qui, précisément, étaient, je pense, taillées comme ça d'origine. Et vous avez cherché, il y en a 6. Donc voilà, 5, voilà. Et donc avec la tapisserie qui va avec le meuble, enfin, un peu dans l'esthétique, quoi. Voilà, et donc à l'échelle de votre corps. Donc voilà, c'était la question du mobilier. Je sais pas, ça m'a troublé tous ces ajustements-là. Et donc je vais un peu savoir un peu plus là-dessus.
Alors, ce que je cherchais, c'était un espace un petit peu dans lequel on pouvait partager assez facilement, très repérable. En fait, au cri miniature, ça part un peu de là, au départ. C'est-à-dire que je suis souvent très touché par les peintures du Moyen-Âge, peintes sur un bout de bois de façon très, très simple, presque figurative, avec des perspectives qui sont pas toujours très très claires, mais qui, en tout cas, la lisibilité de ces objets-là, et je trouve, est très très simple. On se projette dedans très facilement. C'est très abordable. Et je cherchais un peu un espace comme ça dans lequel on puisse se projeter tous, un lieu comme ça d'habitation, on est arrivé dans cette salle à manger. Qui est un lieu à la fois où c'est chargé de plein de choses pour tout le monde, de bons moments, de moins bons, de moments de solitude, des moments de famille, de joie, C'était un endroit où j'avais l'impression qu'on pouvait, on pouvait travailler, se projeter facilement dedans. Et après les meubles et l'échelle, j'ai eu envie on a réduit l'échelle de l'ensemble d'à peu près un tiers par rapport à une échelle normale. Faut que je sois un peu grand dedans, un peu trop, comme si j'avais un peu poussé un peu vite, ou si voilà. Là, par rapport à l'échelle normale, je dois mesurer, si les meubles étaient à l'échelle 1, je mesurerais 2,10 m à peu près, quelque chose comme ça. C'est un peu pour placer, j'avais envie un peu de placer le corps dans cet espace repérable, un petit peu dans un déséquilibre, dans quelque chose de moins repérable, ou déjà un peu décalé, un peu. voilà, par rapport au meuble.
Ben, je ne sais pas, c'est, ça revient, excusez-moi, j'insiste. C'est des objets de fabrication ou de trouvailles que vous avez fabriqués exprès pour le spectacle ?
Voilà, la table, on l'a fabriquée exprès. D'accord. En fait, elle est en perspective accentuée, parce que en perspective accentuée. Le meuble, on l'a trouvé, mais on l'a taillé dans la perspective aussi. C'est-à-dire qu'on a réduit un peu l'arrière par rapport à l'avant. Et puis sur le côté aussi, il est un petit peu... sur la profondeur, il est un peu plus bas au fond que devant. Le radiateur aussi, le cache radiateur est un petit peu taillé en biseau. Les chaises en fait de derrière sont en fait plus courtes que celles de devant. Voilà.
La tronçonneuse est à l'échelle.
Oui, la tronçonneuse est à l'échelle. Je n'ai pas réussi à la trouver vite.
Quelqu'un d'autre voudrait intervenir ? Oui.
Moi, je voulais juste savoir c'était quoi l'idée de départ pour faire un spectacle. Enfin, moi, j'ai trouvé hyper violent, en fait. Ou en tant que spectateur ou spectatrice, là, en l'occurrence, je me suis sentie quand même pas mal agressée. Que ce soit par les sons, visuellement aussi, par la lenteur du départ, où effectivement, en même temps, il y a une violence qui se dégage qui est assez impressionnante. Où on est. Enfin. C'est assez difficile, en fait. Enfin, voilà, ça. Et voilà, je voulais savoir, parce que du coup, là, on se dit, mais il y a quelque chose comme de hyper fort derrière, il y a, je sais pas, il y a quelque chose de très très violent, et je voulais savoir d'où ça venait, tout simplement. Est-ce que c'est quelque chose de personnel? Est-ce que c'est un cri vraiment sur, je sais pas, sur la société, sur le monde? Enfin, j'en sais rien, quoi. C'est quoi le parcours? D'où ça vient, quoi?
Tu veux pas répondre?
Je pourrais peut-être demander aux autres spectateurs comment ils ont ressenti la chose. Moi, je pense que c'est aussi un spectacle qui est assez, dans lequel il y a pas mal d'humour et du décalage, qui est assez jubilatoire. Et la violence est plutôt une tension, plutôt qu'une violence, en fait. Et si c'est une violence, elle est plutôt libératoire que...
Libératoire, peut-être pour l'artiste, mais pas pour nous.
Enfin, Ouais, je sais pas.
Si, moi c'était vraiment jubilatoire, hystérique, mais vraiment. J'espérais vraiment que vous alliez découper la table, quoi. C'était un vrai but. Et effectivement, quand la tronçonneuse apparaît, c'est grandiose, quoi. On est entre. Je trouve. Moi, je l'ai vécu comme quelque chose exactement entre Tex Avery et le mouvement punk. Ça me paraissait très très bien placé, quoi. Je trouve que ça fait beaucoup de bien dans ce contemporain de se poser des questions dans ce sens-là, quoi. Et puis je trouve que c'est vraiment, ouais, enfin, le spectacle en plus c'est vraiment une belle construction et pour la scénographie et pour la lumière et pour le travail sonore qui est vraiment impressionnant, je trouve, quoi. Parce que c'est vrai qu'on est en permanence à se demander mais qu'est-ce qui vient de lui. Et en fait, on comprend à un moment donné que tout vient de vous, quoi, et que tout vient de vous et des machines qui travaillent sur vous. Et c'est vraiment, enfin, moi je trouve. Très très fort, mais je trouve que cette tension, moi je l'ai vraiment vécu comme quelque chose, oui, d'extrêmement pesant et d'extrêmement. Et puis après, on se dit, bon, il tient ses promesses, quoi. Il y a un moment où il y va, et moi ça m'a libéré en même temps qu'on sent que quelque chose se lâche dans le spectacle, quoi. Voilà.
Justement, à propos de ce qui se lâche dans le spectacle, je voudrais savoir si les murs sont découpés à chaque fois de la même façon, s'il y a quand même des temps réservés pour un vrai lâchage aussi. Bon, c'est vrai qu'en tant que public, on est tenu jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a un vrai lâchage à un moment donné ou pas ?
Il y a un vrai lâchage, c'est peut-être pas, c'est difficile de dire ça, un vrai lâchage, mais c'est-à-dire de produire du son. En permanence, en bougeant, même très doucement, en fait, ça demande une concentration assez forte, enfin, assez épuisante. Et il y a un moment, oui, effectivement, c'est voilà, faut pas se perdre, quoi. Mais je peux pas décrocher, quoi. Je peux pas décrocher. C'est écrit, enfin, ça va s'inscrire, en tout cas. Le découpage des murs, c'est prévu, c'est pour qu'on puisse les refaire demain, par exemple, même si on s'en va.
Vous savez, hein.
Mais, Voilà, c'est prédécoupé en fait. Mais bon, faut quand même le traverser. Voilà.
Bien sûr. Quelqu'un d'autre ? Non ? Oui. Merci, bonsoir. Mais comme il a été dit, le travail sur le son et la lumière, en fait, qui nous semble produit par vous, sont quand même incroyables. Alors, sans rentrer dans des aspects trop techniques, est-ce que les personnes qui vous entourent, qui font partie de votre équipe et qui ont travaillé avec vous cette lumière, ce son, peuvent nous dire des choses aussi, si c'est possible?
Bah, juste, déjà, ce que je peux te dire avant de leur passer le micro, c'est que je travaille avec eux, en fait, comme je travaille avec des interprètes sur le plateau. C'est la même chose, en fait. C'est-à-dire, j'ai choisi de travailler avec eux parce que je savais que je pouvais trouver un vocabulaire qui soit le même que ceux avec qui je travaille sur le plateau, des lanceurs ou des comédiens. Donc ça les met obligatoirement dans une position déjà un peu différente dans le travail par rapport à d'habitude. Après, ils vont pouvoir vous parler un petit peu de leur façon après d'aborder ce travail.
Que dire ? Oui, on travaille avec Vincent déjà depuis pas mal d'années. Donc c'est pas une première expérience. On travaille avec Vincent sur les projets de Vincent depuis 2002. Et pour ma part, en tout cas, j'ai rencontré Vincent dans d'autres compagnies, notamment avec Boris Charmatz. Et c'est vrai qu'on a une espèce de... C'est des spectacles qui se font assez vite, malgré tout. Et ça semble... Enfin, c'est très précis, c'est très écrit. Je crois que c'est assez abouti. Et en même temps, c'est des créations qui se font aussi pour des raisons de production, hein, mais qui se font... je sais pas, c'est un mois à peu près. Même pas un mois ensemble en travail, mais par contre on partage tout un background artistique commun depuis déjà pas mal d'années, et puis aussi dans nos manières de travailler, que ce soit pour moi ou pour Thierry, c'est vraiment un travail de trio en fait, c'est-à-dire que je ne fais pas ma lumière séparément, on travaille ensemble et en même temps, dans un temps commun. Moi, par exemple, je travaille tout à la main. C'est-à-dire que je suis vraiment... Je refuse d'enregistrer mes effets. Je les reconstruis en direct, comme Vincent reconstruit son son, comme Thierry le contrôle en direct. De la même manière, on essaye de trouver des modes d'utilisation de nos outils assez cohérents et communs. Donc, on est vraiment dans des logiques d'interprétation d'un outil, en fait. Voilà. Et comme je crois qu'on se connaît assez bien, j'imagine que ça contribue beaucoup à... Non pas être dans quelque chose de fusionnel, on n'est pas dans quelque chose de fusionnel. On est chacun à notre endroit avec notre sensibilité. Et, par moments, on essaye même de situer dans des logiques d'indépendance et tout ça. Mais à chaque fois, on arrive à se retrouver. Le travail avec Vincent se fait en fait, je trouve, en parlant assez peu. Le dispositif arrive assez tôt et c'est notre cadre, le dispositif scénique. Ensuite, c'est vraiment le travail d'écoute ensemble. On ne peut pas dire que c'est un travail collectif, mais on est en interconnexion permanente en fait. Voilà. Moi, je me sers énormément du son pour faire de la lumière. J'espère que Thierry regarde un peu ce que je fais. On a fait une première pièce en 2001, qui s'appelait Jachère, qui a posé les bases de ce travail-là, d'une manière sur un mode improvisé, qui peut-être poussait plus loin encore l'écoute, mais qui a posé vraiment des bases. Et là, quelques années plus tard, les choses se font assez naturellement, en fait. Il n'y a pas de... C'est pas laborieux du tout. Enfin.
Tout pareil.
Euh,
Non, c'est tout. Je suis assez d'accord. C'est vrai que si sur ce spectacle-là, si c'est important pour vous que ce soit un solo, c'est vrai qu'on le vit, nous, comme un trio. Ça, c'est clair et net. Et dans la création, et au moment de la présentation. Ça, c'est vrai qu'on est embarqué avec lui sérieusement. Et sur le travail de création, oui, c'est un peu comme ce qui se passe sur le plateau. C'est-à-dire que tout part de Vincent, quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai qu'on arrive avec nos façons de voir, nos techniques à nous, et voilà. Et c'est vrai que ça se fait assez simplement. Mais c'est vrai aussi que pour ma part, en tout cas, les spectacles avec Vincent me font explorer des choses que j'aurais pas explorées ailleurs. Ça, c'est clair aussi. Moi, je travaille sur d'autres choses, sur mes propres créations, avec d'autres créateurs. Et c'est vrai que l'univers de Vincent, il est quand même très particulier. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est qui me pousse à aller chercher des choses que je serais pas allé chercher. Voilà. Sur la violence, moi, je peux comprendre qu'on le ressente violemment, malgré tout. Je peux le comprendre. Mais je crois que c'est lié aussi à chacun de soi, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai un rapport sur les spectacles de Vincent à la sensation, vraiment, quoi. Pour moi, on est plus dans du sensationnisme que dans une réflexion, effectivement, intellectuelle. Et donc, face à ça, chacun, avec son vécu, effectivement, on le vit différemment. Et ça peut aller jusqu'à la violence, en l'occurrence, je crois. C'est possible. Voilà. Après, je ne sais pas si vous vouliez des éléments techniques vraiment sur le travail, mais voilà.
Non, confirmer qu'on comprend bien que vous êtes en symbiose, je ne sais pas, c'est peut-être le mot est trop fort, mais que vous êtes à plusieurs et que c'est pas un technicien qui intervient pour régler un problème et donner de la lumière, mais que c'est plus
fort non,
que
ça. Ah ouais, non, c'est clair, ouais.
Et donc, un triangle, si vous voulez. Merci.
Quelqu'un d'autre, oui.
Oui, je voulais. Le début de la présentation, quand vous êtes à quatre pattes, le fond du salon, ce grand écran, moi j'ai vu une télévision, et avec l'impression allumée, et l'impression, avec tout ce que la télévision peut, disons, larver les choses, faire qu'on mène une vie un petit peu à bas bruit. Et je trouvais que votre démarche à quatre pattes, et quand vous êtes de dos aussi, ça m'évoquait aussi une larve dans le déplacement. Et la deuxième chose, c'est est-ce que la fin, quand vous êtes avec le tronc d'arbre, est-ce que là, est-ce qu'il y a une espèce d'apaisement dans l'idée de que la solution serait dans... Est-ce que vous cherchez quelque chose quand vous tapez sur le tronc? Est-ce que c'est la recherche dans les racines? Est-ce que c'est une note d'espoir, la fin?
Non, non, non. Il n'y a pas d'espoir. Non, l'espoir... Le tambour, c'est... Oui, c'est, j'espère qu'il y a un peu d'espoir. C'est-à-dire c'est quand même l'instrument de communication de base qui, quand même, permettait aux gens de communiquer et de se comprendre sans mots, simplement, en fait, par le son, mais le son lié au corps, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à comprendre l'état de la personne qui envoyait ce message en frappant son tambour de bois, en imaginant le corps du percussionniste sur le tambour. C'est ça qui leur donnait les informations, en fait. Et donc cette liaison entre le son et le corps, oui, je pense qu'il y a sûrement de l'espoir. Je pense qu'il y a des choses qui, quand elles sont connectées ensemble, j'espère... permettre de découvrir des choses plus facilement, peut-être. C'est vrai que c'est le tambour, bon, c'est un peu l'appel, un peu comme ça, quoi, une sorte d'appel un peu basique qu'on fantasme tous ou qu'on n'a jamais entendu, finalement, mais qu'on connaît tous quelque part. Et que moi, j'ai envie d'entendre encore un peu. Ouais.
Quelqu'un d'autre voudrait intervenir ?
À propos de la télé. Non, mais c'est intéressant que vous voyez ça. Moi, personnellement, je vois pas du tout. Je fais pas du tout une vibration télévisuelle. Hein. C'est juste une manière de. C'est plutôt pictural. C'est plutôt un tableau vivant, plutôt un tableau abstrait. C'est à la fois une fenêtre, donc c'est une ouverture sur l'extérieur. En même temps, c'est aussi un élément de mur, et c'est une manière pour moi d'introduire cet espace comme étant un espace vivant qui va devenir aussi, qui va devenir le deuxième personnage du spectacle aussi. Voilà. Mais j'ai la télé, j'y ai jamais pensé. C'est une grande télé. Oui, oui, ça a une vibration. Non, bien sûr. Ouais.
Tu évoques la dimension picturale. Vous allez me répondre par la figure du triangle, vous faites ça à trois, mais la dimension picturale est très très forte. C'est frappant. C'est construction spontanée, là encore, c'est un calcul. C'est, qui peint ce tableau ? C'est la question.
Alors que ce soit dans Ocri ou dans Jachère, où il y a des dispositifs assez proches, on va dire, Jachère est aussi un appartement. Même si je ne fais pas de lumière dedans, il y a une dimension picturale déjà, en fait. Et elle est, ce serait une peinture plate, sans ombre. Après, moi, j'ai un rapport à la peinture qui est important. Enfin, ça m'intéresse beaucoup. Mais j'essaye pas du tout de me placer en référence ou en. J'essaye que que la lumière soit concrète, qu'elle impulse des qualités de présence de cet espace, sans me référer à une esthétique. Or oui, ça fait penser à Hopper parce que cet espace est un appartement qui a de la lenteur. Mais si on regarde bien, il n'y a aucune direction de lumière qui pourrait ressembler à la direction de lumière qu'il y a dans l'étoile d'Hopper, par exemple.
Oui,
je dis, c'est parce que c'est des. Ça fait appel à un imaginaire pictural, mais dans le travail, c'est pas ce qui me. Moi, en tous les cas, ce qui me meut. Et encore une fois, la donnée de base, c'est cet espace. C'est un appartement des années, on va dire, 45, je crois. C'est ça, non ? Fin des années 30. Jachère était un appartement plutôt américain avec une grande fenêtre. Et pratiquement quoi que j'envoie comme lumière, ça renvoie tout de suite. Même si, picturalement, on est très éloigné, en fait. Mais il y a aussi la qualité de présence de Vincent, sa lenteur. Cet homme qui attend quoi ? Est-ce qu'il est calme ? Est-ce qu'il est... Enfin là, on comprend dans quelle énergie il est, mais dans Jachère, il y a des choses assez contemplatives, voilà, qu'on retrouve dans une certaine peinture américaine, on va dire. Mais enfin, en tous les cas, ce qui me concerne, bien sûr, on a des artistes qu'on aime en peinture, ça, mais je ne m'en réfère pas, en fait.
C'était, par définition, puisqu'on est sur une scène et que le mouvement détermine le changement de la figure, ça ne peut pas être pictural. Simplement, la dimension plastique de votre construction sur scène est immédiatement frappante. C'est pour ça que je l'évoquais. Et on est d'accord.
Oui. En tout cas, la lumière vient vient du tableau, quoi. Enfin, vient de l'espace. Donc c'est peut-être ça aussi qui... On ne voit pas les sources. Voilà. Et je pense qu'il y a peut-être cette dimension-là, quoi.
Quelqu'un d'autre va intervenir ? Oui.
Oui, moi je voudrais simplement revenir sur cette question de apaisement ou pas apaisement à la fin. Et la lecture que moi j'ai du travail de Vincent, là il y a quand même quelque chose comme un apaisement qui se produit. Tout simplement parce que je pense que pendant la totalité du spectacle, on perd tout repère à être emmené à ce point dans ce cri, même avec ce qu'on peut y détecter d'humour, etc. Mais le retour au langage, en fait, produit une espèce d'apaisement, même s'il est écrit, même s'il nous revient de très très loin, 15e, 16e siècle, à la Jonction, voilà, par la force poétique de ce langage-là, qui réfère de toute façon à la guerre, à la violence du monde, il y a une espèce de retour à l'humanité, aussi une humanisation, je pense, tout à la fin. C'est peut-être ça la sensation d'apaisement qu'on peut avoir.
Oui, j'espère un petit peu, mais surtout... C'est un apaisement, ouais. C'est quand même un apaisement avec une langue oubliée, quoi. Mais qu'on connaît, qu'on comprend, quand même. Même s'il y a certains mots, on n'est plus très sûr, tout à fait. Mais on comprend le fond de la phrase. On comprend d'où ça vient, quoi. Et cette chose-là, c'est peut-être, oui, une sorte de confiance vis-à-vis de certains mots qui sont peut-être qu'on ressent et qu'on ne comprend pas forcément d'emblée clairement, mais une certaine confiance dans ça, dans une presque une sonorité des mots. Peut-être, oui. J'espère que ça, en tout cas, ça ouvre un petit peu pour pas rester sur un échec.
Quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Oui ?
Merci. Moi, en fait, je vais essayer d'être clair. Je trouve que déjà, vous êtes seul sur scène. Mais je trouve qu'il y a un rapport à l'autre qui est quand même vachement important, parce que bon, déjà, vous êtes dans cette petite pièce et nous, on vous regarde, donc il y a une sorte de voyeurisme un peu, vous vous retrouvez tout seul. Puis ensuite, c'est une pièce, une salle à manger, donc avec cinq chaises, on a l'habitude de voir plusieurs personnes. Je voulais savoir déjà s'il y a un rapport à l'autre qui est particulier, peut-être une haine de l'autre, un dérangement par rapport à l'autre. Et ça me fait aussi penser vachement à la métamorphose de Kafka. Ce gars qui se retrouve comme un monstre enfermé dans cette chambre, en fait, et vous dépassez un peu ce personnage en déchirant le décor, quoi. Et je voulais savoir, en fait, imaginons une autre pièce, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une autre personne avec vous dans la salle ? Est-ce que ça serait cette personne-là qui prendrait cette libération, en fait, ou est-ce que ça serait le décor ? Voilà.
C'est au cri 2 qu'on va bientôt faire. Oui, c'est bien si vous sentez qu'il y a des possibilités d'autres présences, d'autres corps qui sont, qu'on ne voit pas, mais qui sont peut-être là. Ça m'intéresse. Oui, tout à fait.
Ils s'en sortiraient indemnes.
Hein ?
S'il y avait quelqu'un d'autre, ils s'en sortiraient indemnes.
Ah ouais, Moi oui, mais l'autre je sais pas. Non, je ne sais pas. Mais en même temps, faire le tour d'une table à quatre pattes, ça n'a rien non plus de. Ça arrive, non? Enfin, je veux dire, bon, tout de suite, dès qu'on en fait on. C'est marrant parce que la référence à Kafka, c'est plusieurs fois qu'on me dit, ça me gêne pas du tout, je suis très, très content même. Mais malgré tout, c'est pas tout à fait juste, j'ai pas cherché du tout à parler de Kafka. Mais c'est vrai que c'est une référence j'ai l'impression quand on rentre dans une certaine. Peut-être quelque chose de circulaire. L'écriture de Kafka, c'est circulaire aussi. Il y a quelque chose qui du coup, voilà, on a cette référence-là et on se rapproche de ça, et c'est normal. Mais j'ai pas du tout cherché à faire un personnage qui serait une sorte de Grégoire Samsa moderne. Non, j'ai pas pensé du tout, en fait. Non, j'étais plutôt concentré sur l'idée de trouver ce chemin pour trouver la force du cri, quoi. Comment je pourrais arriver à le tenir, le voir et le aller jusqu'au bout de ça, quoi. Ce rapport du corps et du souffle, quoi, et du son. C'est ça qui m'importait. De toujours être en connexion, que ces éléments-là soient toujours en connexion l'un vis-à-vis de l'autre, voir comment ça pouvait évoluer, progresser ensemble. Voilà.
Une dernière question ?
Non ?
Bon, je pense que nous pouvons remercier Vincent, le trio, d'avoir bien voulu converser avec nous ce soir. Nous vous donnons rendez-vous ici même mardi. À 20h30 pour deux spectacles, le spectacle de Claudia Diaz, Visite guidée, et dans un second temps, à la soirée, pour sa première diffusion, en création, le premier solo d'Emmanuel Germont, ici, un huitième. Voilà, à mardi, et bonne suite de festival.